Hello mes chers amis, ici Pauline Léniaud, j'espère que vous allez bien et je vous emmène aujourd'hui pour un nouvel épisode. Mais c'est un épisode très spécial. Il fallait quand même fêter les 6 ans du podcast. 6 ans de travail, 6 ans d'épisodes toutes les semaines, c'est un travail assez colossal. Et du coup, je me suis dit que j'avais envie de me renouveler. Je me suis dit que j'avais envie de vous apporter quelque chose de nouveau. Alors on a brainstormé avec ma petite équipe et on s'est dit qu'on allait vous proposer tout simplement un nouveau format. Un format un peu de test. Alors du coup, j'ai dû demander à deux amies d'être un peu mes cobayes et elles ont accepté avec beaucoup de grâce, je les en remercie, pour ce nouveau concept que j'ai assez envie d'appeler les dîners du gratin. Oui, le gratin revient. C'est pas vraiment un dîner parce qu'on n'a pas mangé, mais on a organisé ça de manière assez tardive, donc c'était un peu comme une soirée. Et vous allez me dire si vous aimez bien le titre. Quoi qu'il en soit, ces dîners du gratin, c'est tout simplement l'opportunité de rassembler plusieurs personnes pour que, un peu comme une petite souris, vous puissiez assister à nos conversations sans filtre. Des conversations telles qu'on les a, en fait, entre amis, entre entrepreneurs, un peu moins en mode interview et un peu plus en mode conversation. Et en l'occurrence, j'ai choisi pour ce premier dîner du gratin d'avoir deux personnalités qui allaient parler du thème de l'échec, des doutes, des difficultés, donc des sujets qu'on aborde trop peu, que parfois j'aborde pas assez, justement, sur mon podcast, même si j'essaie de les mettre en valeur aussi. Ces personnes que j'admire beaucoup, en l'occurrence Lucille Woodward, qu'on ne présente plus, puisqu'elle est déjà intervenue quand même deux fois sur mon podcast. Là, ça sera la troisième, je crois que c'est la seule personne qui est passée trois fois sur le podcast. Lucille, elle est coach sportive, elle est absolument géniale, allez la suivre sur les réseaux sociaux, je vais dire sur les Instagram. Aussi, allez regarder son podcast sur la longévité, qui est brillant, je vais vous mettre ça dans les notes de l'épisode. Et puis, Lucille a vécu un échec difficile, elle va en parler, puisque récemment, il y a à peu près un an, elle a fermé son entreprise Wellso, et elle va nous expliquer pourquoi et à quel point ça a été dur. Tout ça pour vous dire qu'elle nous a partagé beaucoup de choses très touchantes, et je vous invite vraiment à écouter l'épisode d'ailleurs jusqu'au bout, parce que la fin notamment de l'intervention de Lucille, je trouve, est particulièrement marquante. Et puis j'ai également le plaisir d'avoir avec moi Barbara Leperlier, que vous connaissez peut-être pas parce qu'elle n'est jamais passée sur le podcast, qui avait créé il y a quelques années The Blonde Cactus, qui était une jolie marque aussi de déco d'intérieur, qu'elle a dû fermer il y a maintenant à peu près un an, pourtant après 6 ans d'existence de boîte. Bah là aussi, en fait, elle va nous expliquer pourquoi, nous expliquer ce qui s'est passé, tout le processus de fermeture, les états d'âme par lesquels elle est passée. Enfin bref, on est rentré vraiment dans le détail, sans filtre, là encore. Et je trouve que c'est un beau cadeau qu'elles vous ont fait de parler avec autant de vérité, avec autant d'authenticité, même si le mot il est parfois un peu vu et revu maintenant. Là, en l'occurrence, c'est vraiment le cas. Et je crois que de temps en temps, Lucie, elle avait presque un peu la larme à l'œil quand elle se rappelait de ce qui s'est passé et à quel point c'était dur. Bah, je les remercie et je vous invite à les remercier aussi sur les réseaux. Alors envoyez un petit message sur Insta pour leur dire que vous avez apprécié ou pas cet épisode. Je suis sûre que ça leur fera très plaisir et moi aussi, bien sûr. Alors voilà, c'est reparti pour une nouvelle saison du podcast, la saison 6 si je puis dire, puisqu'on arrive dans notre 6e année. En tout cas, je vous souhaite une très belle écoute et je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Lucille Woodward et Barbara Leperlier. Hello mesdames. Bon, alors c'est un peu bizarre ce hello mesdames, mais je voulais quand même vous dire bonjour parce que je suis très contente d'être avec vous ce soir. Nous sommes en soirée, il est 19h et c'est la première fois en fait que je veux faire ce nouveau type d'épisode inédit. Je vous remercie d'être les cobayes, les gentils cobayes qui a accepté de se plier à l'exercice, c'est hyper sympa. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par faire une petite introduction rapide, que chacune en fait vous me disiez votre vie, votre œuvre, en tout cas ce que vous avez envie de me dire sur vous, c'est ça le plus important. Et puis ensuite on rentre dans le vif du sujet. Lucille, toi qui es assez rodée à l'exercice des podcasts, je te laisse si ça te va bien te présenter.
Merci Pauline. Donc moi je m'appelle Lucille Woodward, je suis coach sportif et j'anime depuis bientôt 15 ans une grosse communauté de femmes sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram et aussi mon blog, ma newsletter, autour du sport, du bien manger, de la remise en forme et de la longévité.
Exactement, avec un super podcast d'ailleurs que je vous invite à écouter, que je mettrai dans les liens de l'épisode.
Merci.
Et par ailleurs, quand même tout le monde te connaît sur ce podcast puisque t'es quand même déjà passé deux fois, tu fais partie des rares personnes à être passé deux fois, donc voilà. Jamais 203 comme on dit, et voilà.
J'aurais préféré venir pour une autre raison, mais c'est pas grave.
Écoute, on va passer un bon moment. Je suis sûre qu'on va passer un bon moment. Barbara, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas?
Bonsoir Pauline, bonsoir Lucille. Donc moi je m'appelle Barbara, je suis Head of Retail pour une marque de prêt-à-porter. et je suis une ancienne entrepreneur puisque j'ai fondé ma marque de décoration florale il y a 6 ans.
C'était il y a 6 ans.
Enfin, c'était il y a 6 ans, exactement. Et ça a duré 6 ans que j'ai fermé l'année dernière et on va reparler du pourquoi juste après.
Exactement, parce que toute l'idée de ce podcast, c'est que je me suis dit, il y a trop de dîners, il y a trop de déjeuners où on est entre entrepreneurs ou entre personnes qui travaillons et où on partage un peu nos coups de tête, nos coups de mou surtout, nos moments down avec beaucoup de sincérité. Et je regrettais que même sur mon podcast où j'essaie d'avoir beaucoup d'authenticité avec mes invités, finalement, c'est pas si facile. Et donc, j'avais assez envie d'avoir mes cobayes avec moi. Et moi-même de me plier à l'exercice, hein, quand même, je vais me mettre en cobaye moi-même. Mais non, mais j'avais assez envie justement qu'on soit, en fait, qu'on soit dans une phase de partage et qu'on se dise un peu les choses. Et donc, toute transparence pour l'audience, chacun dit ce qu'il a envie de dire, il y a aucune pression. Mais en revanche, on a envie de passer une soirée ensemble où on va quand même se raconter un petit peu les choses et se partager nos moments de doute, de coups de mou, etc. Et alors, si ça vous va, pour vous mettre un peu à l'aise, ce que je vous propose, c'est que je commence par vous parler d'un sujet qu'on abordait juste avant de lancer le podcast, qui était ma fatigue perpétuelle parce que j'ai un rythme de vie effréné et que j'ai pas encore trouvé un équilibre total entre mes déplacements. Et ça, c'est pas si facile à gérer et ça a posé plein de problèmes parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui pensent que je travaille plus forcément chez Gémio alors que c'est faux. Non, mais c'est vrai. Enfin, alors pas dans mes équipes, hein, ça heureusement, mais à l'extérieur, il y a plein de gens qui me disent « Mais attends, tu bosses encore chez Gémio ?» Et bah, bien sûr que je travaille encore chez Gémio. Et donc, ça a eu plein de conséquences collatérales qui ont été pas toujours faciles à gérer. Et au-delà de ça, effectivement, une nécessité d'accepter le travail à distance qui est pas toujours facile quand on est manager. Et d'ailleurs, c'est pour ça, pour tout dire, que la solution qu'on essaie de mettre en place avec mon mari, c'est de beaucoup recruter des managers un peu plus seniors aussi dans l'équipe, ce qu'on n'a pas toujours fait chez Gémio. Parce qu'en fait, comme je peux pas être là tout le temps, en fait, ça fonctionne pas, tu vois. Le fait que Sharif et moi, parce qu'en plus, on a quand même créé la boîte tous les deux, que les deux dirigeants, en gros, soient pas très souvent là, c'est un vrai problème. Mm-hmm. Pas parce que les gens foutent rien quand on n'est pas là, mais juste parce que c'est pas pareil, parce qu'on comprend moins la boîte au quotidien. Enfin, c'est quand même pas tout à fait vrai que le télétravail, c'est la même chose.
Complètement. Bah, on y revient beaucoup, hein, d'ailleurs, au télétravail. Enfin, t'as pas mal de boîtes qui font un peu marche arrière sur le sujet, hein.
Exactement. Donc, voilà mon coup de mou depuis quasiment 3 ans maintenant et qui a du coup, moi, m'a beaucoup questionné quand j'ai commencé à me dire, mais peut-être qu'il va falloir que je rentre en France, etc. Ça a été très dur. Et donc, je suis passée par des phases très dures à cause de ça. Et donc, je suis assez contente de vous en parler maintenant parce que je trouve que c'est utile de montrer que même quand on fait des choix et qu'on est heureux de ces choix, il y a souvent des trade-offs, quoi.
Ouais, bien sûr.
Et t'es en shit, c'est-à-dire quoi? Tu te déplaces trop, t'es jamais chez toi, tu sais jamais où t'habites, t'es fatiguée, c'est quoi?
Oui, c'est ça, concrètement, c'est ça, quoi. Parce qu'en plus, si tu veux, et puis quand je suis chez moi, j'adore être chez moi, mais j'ai pas mes équipes à côté de moi, donc j'ai la frustration inverse. Parce que j'ai eu des périodes où je restais beaucoup, enfin, j'étais très très souvent là-bas. Et d'ailleurs, je continue à y être pas mal, hein. Mais du coup, j'ai une frustration qui est que mes équipes, elles sont pas, je suis pas avec elles, alors que j'adore en plus être avec elles.
Je crois qu'il y a une notion de remise en question de la légitimité aussi. C'est en toi.
Légitimité, tu veux dire
en tant que manager. Je trouve que c'est assez.
En tout cas, ça me questionne sur la faisabilité d'être manager à distance.
Oui, voilà.
Franchement. Et donc, ça, c'est un vrai sujet. Enfin, je sais pas, toi, tu t'avais vécu ça aussi.
Alors oui, et moi, je pense que c'est une des raisons principales de mes galères. C'est que, donc, nous, on était une équipe de... On a été jusque 12, après, avant
La crise sanitaire
la crise sanitaire, non. C'est,
au contraire, c'est vous.
On avait un licenciement économique de toutes les équipes. On a été on était 8. Et en gros, moi, j'étais pas souvent au bureau parce qu'en fait, j'étais toujours un peu à droite, à gauche, en prestation, en train de faire du sport, à courir avec mon chien, à nager. Enfin, voilà, parce que ça fait aussi partie de mon travail. Et mon ex-associé était à un autre endroit, en fait, elle habitait pas en région parisienne, donc beaucoup de télétravail, ce qui était depuis le début, en fait, comme ça, mais finalement, ça fonctionnait pas, et nos équipes ont gardé énormément de télétravail, après le Covid et tout ça, enfin, on a gardé beaucoup de télétravail, et finalement, en fait, on payait des loyers assez chers, alors qu'on n'y était que 3 fois par semaine, donc sur 7 jours, on n'y était que 3 fois, à peine, et tout le monde n'était pas toujours là. finalement, voilà, télétravail, c'est vachement, enfin, ça devenait la norme. Et en fait, c'est vrai que la gestion des équipes est, c'est hyper difficile. Du coup, quand tu te vois, t'as mille trucs à dire, à faire, mais, enfin, c'est pas si fluide. Donc, je pense que pour nous, ça a été quand même quelque chose qu'on aurait dû, enfin, voilà. Après, avec des si, tu mets pas en bouteille.
Bien sûr.
Enfin, voilà, ça a pas contribué à nous aider énormément, même si on n'a pas du tout réussi à remettre les gens plus au bureau. Et nous, on n'avait pas forcément envie non plus. Mmh. Donc, c'est aussi des signes, parfois. T'sais, quand t'as pas envie d'aller au bureau, c'est aussi un signe. Mais ouais, non, je pense que vraiment ce full télétravail ou beaucoup télétravail, ça a pas beaucoup aidé. Et d'ailleurs, moi, il y a une personne que j'aime beaucoup, c'est Catherine Norse. Tu devrais l'interviewer d'ailleurs une fois dans ton podcast, qui a créé Norse Communication, qui est une immense boîte de relations presse à Paris, qui est très connue dans le milieu. Et elle m'a toujours dit, il faut que tu sois là, faut que tu sois présente. C'est toi qui donnes le ton, en fait, dans ta boîte. En fait, ton staff sera comme toi.
Ouais.
Et nous, on n'y était pas.
Oui, en plus, vous deux, les deux dirigeantes, quoi.
Donc, ça a pas aidé.
Je n'ai pas.
Mm. Oui, je suis assez d'accord avec cette dernière, avec cette vision-là. Ton staff sera comme toi. Après, ça t'empêche pas de faire une partie à distance ou quoi que ce soit, mais je pense que t'infuses forcément, tu distilles dans tes équipes quelque chose de, tu vois, c'est résolument palpable, en fait, quand t'es face à l'autre, ton énergie, etc., elle est pas du tout la même qu'en distanciel.
Complètement.
Ah, mais c'est clair.
Et, enfin, tout ce qui est relatif à l'énergie, tu vois, la façon dont tu vas, ta posture, etc., pour moi, c'est ça qui impulse la dynamique au sein des équipes. Et donc, je pense que c'est vrai. Pas vrai forcément à 100%, ça veut pas dire que demain, tu dois faire 100% de présentiel, mmh, etc., ou que c'est 100% de TT qui va faire planter ton projet. Mais je pense quand même que tu as une certaine mesure, dans une certaine mesure, c'est clé dans la gestion de tes équipes.
Mais ça, bon, c'est un exemple parmi d'autres de la multitude d'exemples, en fait, de choses difficiles à gérer en tant que professionnel, parce que finalement, en tant qu'entrepreneur, c'est peut-être encore plus le cas que dans la vie professionnelle quand on est salarié, encore que on a aussi beaucoup de sujets à gérer quand on est salarié, jusqu'on a encore peut-être plus de pression. Mais je pense que c'est vrai que c'est un truc qui arrive à beaucoup plus de gens qu'on ne croit. Et en réalité, je pense qu'on met aussi beaucoup de temps à se l'admettre, parce que tu vois, moi, je ne sais pas combien de temps toi t'as mis à réaliser, Lucille, avant de savoir qu'il y avait un problème, que ce soit celui-là ou un autre à la rigueur, que tu vois, le fait que vous y soyez pas tout le temps sur place, c'était un souci, quoi. Mais moi, j'ai mis très longtemps avant de le réaliser, parce que comme ça allait contre ce que je voulais, c'est-à-dire être tranquille entre guillemets chez moi, j'ai mis du temps à l'accepter. Tu vois, maintenant au moins je l'ai compris et donc je recrute. Mais c'est vrai que pour l'instant, pas avec beaucoup de succès d'ailleurs.
Le recrutement, c'est dur.
C'est une autre histoire. On pourra faire tout un podcast dessus.
On peut faire un podcast dessus.
Mais je trouve que ouais, c'est pas évident, tu vois, de se mettre face aux réalités, tu vois, quand ça t'arrive. D'ailleurs, c'est peut-être le problème, c'est qu'on met un peu trop de temps en fait à se rendre compte de nos erreurs en réalité.
Et peut-être que c'est censé arriver, tu vois, toute cette organisation, en fait, à un niveau de maturité de ta boîte ou d'organisation. C'est peut-être ça aussi l'erreur qu'on peut faire. C'est de créer cet écosystème, peut-être pas forcément au bon timing.
Oui, oui, c'est vrai.
T'as ça aussi. Tu peux très bien te dire, mon plan de vie perso, parce que bah, quand t'es entrepreneur, c'est intimement lié à ta vie professionnelle, quand tout est impliqué. Le projet, c'est de partir en Suisse en 2023-2024. Avant ça, on doit poser les jalons sur le recrutement, être hyper bien structuré.
Bah, on est impatients, on est entrepreneurs, hein.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Ouais.
Et puis, c'est vrai que, de toute façon, c'est un métier d'impulsivité, malgré tout. Tu sens un truc, t'y vas, tu fonces, et puis parfois ça passe, parfois ça casse, donc, après, je pense que ce télétravail, un peu cette lubie du télétravail où tu peux travailler de n'importe où, parce que on a des exemples en fait de gens qui y arrivent, mais c'est rarement des gens qui ont beaucoup de staff.
Ouais.
C'est des personnes qui bossent juste à leur compte en fait, tout seul, un développeur, des gens clairement comme ça qui sont très très éloignés finalement du travail en équipe. Mm. Mais
Ouais, et puis surtout quand la marque est incarnée. Toi, dans ton cas, en plus, elle est quand même très incarnée, la marque. Donc, c'est vrai que tout était autour. Enfin, je veux pas dire que tout était autour de toi, parce que ça peut paraître mégalo, c'est pas ça. Mais quand même, malgré tout...
Bah si, moi, tout était autour de moi. Et en fait, c'est justement parce que j'ai voulu que ma marque soit moins autour de moi que ça a complètement foiré. Mmh.
Clairement. Mais ça, si t'acceptes, je veux bien qu'on en parle, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui, quand ils créent leur boîte, utilisent un peu le personal branding en se disant, ok, ça va être un bon moyen de, bah, de d'avoir plus de notoriété.
Et ce c'est un levier, vrai, ouais,
c'est un
sûr.
Bon levier, quoi. Ouais. Alors toi, en plus, comme t'avais une super notoriété, une vraie légitimité et tout, en plus, quand t'as créé tes marques, t'avais quand même tout ce bagage derrière. Mais après, s'en défaire, c'est compliqué, quand même.
Bah ouais, d'ailleurs, tu vois, j'y arrive pas. J'ai pas réussi. Mais en réalité, non.
Mais tu penses
maintenant,
que c'est
vraiment,
qu'il faut
je
pas
comprends. En fait, il fallait pas me défaire de mon nom. C'était clairement une erreur, mais pourquoi est-ce que je l'ai fait? C'est parce qu'en fait, je n'aimais plus ce que je faisais. Et vraiment, enfin, voilà, je peux le dire, je l'ai déjà expliqué à ma communauté sur mon blog, en vidéo. Mais en fait, j'étais hyper lassée de la façon dont je travaillais, de ce qu'on proposait. Ça me correspondait plus, ça correspondait plus à ma façon de voir le coaching, le sport, la remise en forme, et en fait de devoir toujours faire comme ça, toujours un peu la même chose finalement. Ben ça me lassait moi, et c'est pour ça que j'ai voulu que ce soit incarné par d'autres personnes et changer de nom et pour moi, un peu comme toi finalement pour partir en Suisse, mais pour moi finalement faire un peu autre chose, ouais. Des choses qui me plairaient plus, comme l'organisation de séjours ou aller voilà du côté de la longévité, enfin voilà explorer en fait d'autres domaines. Parce que moi j'aime, je suis un peu une exploratrice, j'aime bien. Et là finalement ça a roulé, c'était toujours pareil.
Oui, t'étais un peu rentrée dans une case quoi au final.
Exactement. Et du coup ça me lassait et c'est pour ça que j'ai voulu créer un autre nom, voilà, me défaire en fait de mes produits, et c'est là que ça n'a pas du tout marché.
Et ça n'a pas marché tout de suite, ou en fait, au début, tu y as cru, et ça ne s'est pas fait avec le temps, enfin...
Ça n'a pas marché tout de suite.
Les gens, en fait, parce que tu n'étais plus là, en fait, ils n'adhéraient pas.
Ouais.
Moi, je pense que c'est très dur, ça.
Ah non, mais c'est hyper
comme
dur.
Comme challenge. Tu vois, moi, quand j'ai fermé, avant de fermer, j'ai essayé de vendre, et en fait, les gens, ils voulaient m'acheter moi, tu vois. Ma marque, au final, était relayée au second plan. Les actifs, etc. n'avaient plus aucune valeur si moi, je suivais pas le projet, en fait.
Et toi, ça t'intéressait pas de rester potentiellement dans une boîte qui serait plus la tienne, mais que tu aurais quand même créée?
Je suis pas allée jusque-là, dans les propositions, etc. Parce que, enfin, on y reviendra, mais moi, quand j'ai fermé, j'ai choisi de vendre. Soit je vendais très vite, soit je fermais très vite. J'ai pas, tu vois, suffisamment laissé de temps, parce que je voulais pas que ça me bouffe, si tu veux, intérieurement.
Je comprends.
Mais en tout cas...
T'étais toute seule?
Non, j'étais pas toute seule. J'avais une équipe. Alors après,
t'avais un associé ou t'étais...
Non, ouais, genre, j'étais seule, ouais, tout à fait. J'ai des investisseurs, mais j'avais pas d'associé opérationnel. Donc oui, et ma marque, c'était moi, comme toi. Et en fait, au fur et à mesure des discussions, puis des négociations, et puis en fait, au final, tu te rends compte que carrément, après, on te propose des jobs dans les boîtes en question.
Oui, c'est ça.
Voilà, enfin, ça se finit comme ça. Les discussions se closent comme ça. Venez travailler chez nous, ça ira plus vite, quoi.
Bah, d'ailleurs, il y a plein de gens qui rachètent des boîtes parce qu'en fait, ils veulent racheter la compétence des fondateurs plus que la boîte, en fait.
Exactement. Hein. Et donc, en fait, tu vois, c'est un peu lié à ce que tu étais en train de dire. C'est que tu peux jamais, en fait, détacher ton image.
Difficile, ouais.
Il y en a qui y arrivent,
oui,
quand
il y
même.
En a.
Tu vois, la belle boucle, elle a réussi.
Disons que je pense que si tu pars de « je crée ma boîte et je l'incarne après », je pense que ça va. Mais c'est vrai que si tu commences par être une personnalité déjà publique et qu'après tu crées ta boîte, je trouve que c'est plus difficile.
Ouais, tout à fait.
C'est ça, quoi. Toi, finalement, le problème, c'est que t'avais trop de notoriété et ta communauté était trop attachée à toi, je pense.
Moi, mon problème, c'est que ma communauté a senti que je me détachais, en fait. Voilà. Et c'est pas faux d'avoir essayé, parce que j'avais vraiment envie que ça marche, mais on est trop proches. Mais c'est très bien, en fait, du coup, c'est bien, d'un autre côté, parce qu'on se connaît, on se voit. Mais, ça a fait que ce projet-là, en tout cas, a vraiment pas marché et du coup me fait traverser un moment pas facile.
Et justement, je voulais...
Ça touche ouais. forcément quand tu licencies 7 personnes le même jour. C'est...
Ouais,
ça touche, ouais.
Il y a un truc que je voulais aborder aussi, et peut-être avec vous deux, mais Barbara, toi, quand t'as décidé de fermer ta boîte, il y a toujours cette période assez horrible où, ok, t'as pris ta décision, et je sais, du coup, je l'ai pas vécu, mais j'ai vécu aussi d'autres échecs, c'est... T'as pris ta décision, d'une certaine manière, t'es un peu soulagé quand même parce que t'as pris ta décision, même si c'est dur. Mais vient après la phrase où tu vois toutes les conséquences, tu vas devoir l'annoncer publiquement, tu sais que le regard des autres va évidemment peser sur toi. Enfin, il y a tout cet après qui est en général assez terrible. Et bah toi, te concernant, je veux bien qu'on en parle si t'acceptes.
Bien sûr.
Parce qu'en plus, ce qui est génial, c'est que sur tes réseaux, tu communiques quand même pas mal sur sur cet échec et je trouve que tu le rends valorisant au sens où on voit que déjà on s'en sort très bien après, qu'on peut rebondir. Enfin, tu vois, les trucs un peu bateaux qu'on dit toujours, mais qui sont quand même une réalité parce qu'il y a peu de gens qui ne survivent pas à un échec quand même malgré tout.
Oui.
Et donc, je voulais savoir, toi, en fait, si tu peux me parler un peu de cette période, vraiment, quand tu étais dans le dur, de tes émotions, notamment.
C'était en 2022. Mais en fait, je ne sais pas si j'ai processé très vite ou très lentement, parce que j'ai l'impression que ça a duré un an. Mais moi, pour te poser un petit peu le contexte, déjà, j'étais enceinte. J'étais enceinte de mon deuxième enfant. Quand j'ai vite compris cette année c'était l'année des grandes décisions et que c'était soit ça passe soit ça casse, en gros la strate du début d'année c'était soit lever de l'argent ou soit fermer, et c'était très clair dans ma tête. Après, ça c'est mon mindset, tu vois, c'est mon mental, c'est de dire ok, cette année 2021 a été l'année du succès pour The Blonde Cactus. On a fait des très belles choses. On a vraiment performé en termes de chiffres, etc. Maintenant, début 2022, c'est le moment d'aller chercher de l'argent. Sauf que c'était légèrement trop tard, je pense, dans mon timing, parce qu'on commençait à amorcer une phase descendante et j'étais un peu moins désirable, entre guillemets, pour les investisseurs. Puis c'est toujours pareil quand t'es seul, machin, etc. Tu vois, trouver du temps pour faire tes decks, tes trucs, tes machins, aller faire tes roadshows. Et puis moi, c'était le début de ma grossesse, donc c'est pas toujours pour redire nous, les femmes, les grossesses, la maternité. Moi, j'aime pas trop ce côté un peu complainte, mais malgré tout, c'est un challenge, c'est un défi. Et du coup, si tu veux, j'ai assez rapidement compris, peut-être en un mois et demi, que j'allais pas réussir à lever parce que de toute façon, le marché commençait à se retourner.
Bah c'est ça, c'est que le timing aussi était génial.
Mais bien sûr. Là, mon mari, il avait pas arrêté de me dire, faut que tu le fasses avant. Et j'étais, ah oui, mais du coup, comme on a pivoté, je sais plus comment présenter les choses, je suis un peu perdue. Je suis tellement, moi, dans l'opérationnel de ma boîte que, j'ai du mal à prendre cette hauteur de dirigeante de faire que de la strat pendant un mois, tu vois. Ça, c'est des choses que j'ai pas réussi à faire qui m'ont beaucoup frustrée, tu vois. Un espèce de challenge que j'ai pas réussi à relever, et qui a été, in fine, un échec.
Après, je connais pas beaucoup de dirigeants qui arrivent à faire un mois de strat.
Deux
jours.
Non, mais j'allais te dire, même 48 heures. Mais tu vois, c'est bien évidemment. Mais en tout cas, de prendre le temps pour le faire, hein. Peu importe le temps que tu attribues, mais j'ai pas réussi. Et du coup, c'était légèrement décalé. Mais en fait, même légèrement décalé 3-4 mois, t'as le temps de voir tes chiffres baisser, et du coup de montrer que la trend que t'avais réussi tu as installé, mais en fait elle est plus là. Et donc j'ai assez rapidement compris qu'entre mes concurrents, j'ai commencé à apprendre qu'il y avait des fermetures, que des fonds d'investissement qui avaient investi dans des concurrents à moi, en fait, tu vas se rendre compte que ça va fermer, etc. Donc là, tu sais que c'est fini, quoi. Et donc, du coup, comme il y avait cette grossesse, je me sentais responsable, si tu veux, de mon bien-être et du bien-être de mon bébé. Et j'ai pas voulu, tu vois, me laisser emporter par les émotions. J'ai été très... Pourtant,
Donc, tu veux dire que t'as coupé un peu les émotions à ce moment-là, même si ça se passait mal, t'étais un peu en... Pas en déni, mais un peu en mode...
En mode survie, bon, c'est pas grave, ok, donc next step, c'est quoi qui va se passer.
Ouais, c'est intéressant, ça.
Et tu vois, il y a toujours ce truc de vision. Ok, là, j'ai 2 mois pour trouver de l'argent. Je trouve pas cet argent. Au 31 mai, bam, on passe en mode, on recherche quelqu'un pour racheter. Je me laisse 1 mois parce que j'avais anticipé le fait de rencontrer des nanas qui avaient revendu leur boîte. Pas des hommes, du coup, des femmes encore. Et qui m'avaient expliqué, moi, je serais toi, je perdrais pas trop de temps parce que moi, j'ai mis 6 mois à essayer de vendre. J'ai pas réussi, j'étais épuisée. J'aurais mieux fait d'essayer de trouver un boulot pendant 6 mois bien payé. J'aurais perdu moins d'argent. Enfin, tu vois, des retours d'expérience qui m'ont nourrie. Et qui m'ont permis d'aller, je pense, plus vite. C'est pour ça que je pense que ce qu'on fait là, tu vois, être ensemble et évoquer ce type de sujet, c'est important parce que on n'a pas forcément conscience de ce que ça peut, la façon dont ça peut nous enrichir sur des questions que tu peux te poser intérieurement. Et moi, ça, pour le coup, je l'ai fait et ça m'a permis d'être hyper carré sur la façon dont j'allais mener mon année, tout en me disant de toute façon, moi, la priorité, c'est mon bébé. J'ai un fils aussi, déjà. De me dire, c'est pas à mon mari et c'est pas, à ma famille, en gros, subir, entre guillemets, ce dans quoi j'aurais pu m'emporter émotionnellement, de me dire, je ferme ma boîte. En fait, t'as le droit, tu vois, d'être triste, d'être... T'as le droit de vivre tes émotions comme t'as envie. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai pas le droit. Et peut-être aussi que c'était une vague de fermeture autour de moi, sur d'autres secteurs d'activité, et qui m'ont fait peur.
C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup à cette période.
À cette période-là, je peux te dire qu'il y en a eu beaucoup. Et moi, j'avais plein de copines qui commençaient à fermer et qui commençaient à me dire, moi, j'ai des idées noires, je suis pas bien, je suis malheureuse, je suis en burn-out, je coupe, désolé, je t'ai pas répondu pendant 3 semaines, j'en reviens là vraiment. Et en fait, moi, je voyais ça avec mon ventre qui grossissait, je me suis dit, non, attends, mais moi, je vais pas du tout rentrer là-dedans, en fait, parce que là, vraiment, tu vois, je vais pas me dire, j'ai des idées noires, je peux pas, j'ai pas le droit, tu vois, de me laisser aller. Donc, c'est pareil, conditionnement mental, tu sais quoi? Ça marche plus, j'ai essayé, c'est pas grave, j'ai pas eu l'argent que je cherchais pour X raisons, peut-être en partie de ma faute sur le timing, la gestion, etc. Et parce que le marché n'est plus ce qu'il est, ça fait 6 ans, c'est pas grave, on arrête et on passe à autre chose, tu vois, je veux que ce soit positif, quoi qu'il en soit, que cette expérience soit positive. En réalité, je me suis pas laissé le choix, voilà. Et je me suis fait un planning en me disant, si j'arrive pas à revendre, on va entamer une procédure de fermeture. Comment ça se passe une procédure de fermeture? Je vais m'adresser à des personnes qui l'ont déjà fait, qui vont m'expliquer, etc. etc. Tu vois. Et après, il y a l'annonce à la communauté qui, ça, pour le coup,
c'est ça, était pas un évident.
C'était plus dur. Mais je l'ai fait, tu vois, je l'ai fait après. Après la liquidation, après le tribunal, etc. J'avais déjà accouché de ma fille. Et d'ailleurs, c'est une espèce d'énorme vague émotionnelle. Je me rappelle parce que j'ai reçu plein de messages tellement gentils. Tu vois, c'est pas bisounours, mais il y a ce côté, hyper chaleureux. Ou même à distance sur les réseaux sociaux, t'as parfois l'impression que les gens te prennent dans les bras.
C'est clair.
Et là, je me suis dit, ça y est, j'ai fermé. Ça y est, c'est la fin.
C'est devenu vrai.
C'est pas les papiers que t'as commencé à remplir au mois de juillet. Tu vois, même si c'est 4 mois en amont, c'est là, je l'ai annoncé, c'est factuel. Voilà, donc moi, c'est la façon dont je l'ai vécu. Je ne me suis pas autorisée, je voulais rester très focus.
Et après, du coup, quand tu as eu ce deuxième un peu contre-coup parce que tu l'as annoncé et que tu l'as un peu pris en pleine face, là, ça a été plus dur ou non, en fait, au final
Non, parce que je venais de retrouver un boulot.
D'accord.
J'avais pas encore commencé. Mais j'avais déjà, c'était déjà acté, tu vois. Et c'est vrai qu'en fait, mine de rien, t'accouches, tu fermes ta boîte. Le moment aussi de prendre le temps pour toi de dire, qu'est-ce que je vais faire? Ça fait 6 ans que je suis entrepreneur, donc il faut essayer de faire un espèce de petit bilan de compétences avec toi-même. Voilà, in-house, et de te dire, OK, après, pour quel type de boîte j'ai envie de bosser, pour quel type de secteur, enfin, tout ce que tu peux essayer de te figurer pour la suite, qu'il faut que tu poses, pareil, de façon hyper factuelle. Et en fait, tout ça, en gérant déjà un deuxième enfant qui vient d'arriver, en fait, t'as pas le temps de trop réfléchir et de te laisser emporter. Donc là, c'est un peu, je t'avoue, le quotidien qui m'a porté en mode, j'ai même pas trop le temps de réfléchir à ce qui m'arrive, quoi. C'est juste, c'est comme ça, ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est derrière moi, mais c'est pas grave parce que j'ai retrouvé un boulot dans une boîte qui a l'air, parce qu'à l'époque, j'avais pas commencé, donc qui a l'air de me plaire, avec un poste qui me plaît, j'ai beaucoup de chance. Essayer de me focus vraiment sur les points positifs, tu vois, c'était un peu mon mood.
Ce que je trouve cool, en tout cas, dans ce que tu dis, parce que c'est pas si fréquent, franchement, je sais pas ce que t'en penses, Lucille, c'est que souvent, les gens qui vivent des échecs, quand ils sont dedans, enfin, c'est quand même horrible, quoi, comme truc. Donc, en fait, t'as un peu envie de te... t'as envie de te jeter sous un pont, par moment, quand même.
Mais
j'ai l'impression que la manière dont on parle, tu vois, tu l'as fait de manière assez pisse, et c'est pas négatif ce que je dis, au contraire.
En tout cas, un peu protocolisé, quoi.
Oui, mais du coup, t'avais du recul, en fait, quoi, tout simplement, sur la situation.
Après, c'est quand même pas mal dans mon mindset d'être comme ça, tu vois, déjà de base. Je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup les choses, en tout cas qui a envie de poser une vision assez claire de là où j'ai envie d'aller, avec le chemin par lequel j'ai envie de passer. Ça veut pas dire que le chemin est pas semé d'embûches, que tu t'es pas trompé de route, etc. Mais ça, faut l'accepter déjà en amont, tu vois. Et puis c'est la capacité de l'entrepreneur de trouver des solutions qui se présentent quand t'as des problématiques et d'être hyper réactif. Mais en tout cas, je pense que de définir une espèce de roadmap personnel, c'est en tout cas moi, ça m'aide, tu vois, à me dire je sais où je vais en fait.
Oui,
et je sais
où j'ai envie d'aller. D'avoir le contrôle un peu.
Exactement,
finalement.
D'avoir le contrôle et tout en sachant que peut-être que c'est pas comme ça que ça va se passer, mais tu développes en tout cas les compétences avec l'expérience. Même si je suis pas non plus super vieille, tu vois, j'ai que 37 ans, d'avoir l'expérience est nécessaire pour pouvoir être agile en fait sur ce que j'ai pu projeter. Donc, si tu veux, cet exercice, il n'a pas été très compliqué pour moi à appliquer. Je pense qu'il y a un côté maternel, un peu, pas animal, tu vois, mais de protection qui me dit, OK, je suis enceinte, c'est ça ma priorité, etc.
Oui, t'avais un autre sujet de priorité aussi,
ouais,
ça, exactement, c'est hyper intéressant.
Et c'est ma responsabilité en tant que mère, et puis c'est aussi ma responsabilité en tant que chef d'entreprise de prendre pour le coup le recul et de dire, ça ne va plus, on ne va pas aller là où on devait aller. Et là, ça y est, c'est fini. Il faut prendre cette décision-là et elle est saine.
Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu as eu le recul de voir que t'étais pas 100% identifié à ta boîte et qu'en fait, tu vois, t'avais cette autre priorité qui était ta famille. Mais souvent, quand on est entrepreneur, on le perd de vue parce qu'en fait, on est tellement dans sa boîte à 100% que quand on a un échec, on le vit hyper personnellement déjà. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, mais moi, je le vis souvent bien personnellement.
Oui, bien sûr.
Et puis d'autre part, t'as un peu l'impression que le monde s'effondre autour de toi, alors que à juste titre, non, le monde...
Oui, la Terre va pas s'arrêter de tourner techniquement si c'est ça.
Ouais, mais c'est vrai que c'est dur de prendre le recul. Enfin, moi, j'arrivais pas du tout à le prendre.
Mais justement, Lucille, moi, je serais curieuse si t'acceptes, c'est que j'ai l'impression que t'as pas réagi du tout de la même manière.
Non, pas du tout.
Au sens où, enfin, je peux imaginer que c'était dur pour toi aussi, Barbara, mais je veux dire, toi, Lucille, je sens que t'as été un peu meurtrie, quoi, quand même, par cette histoire.
Ah oui, très affectée. Et je le suis encore maintenant. Bon, c'est aussi assez récent. Moi, c'était le licenciement économique, c'était en mai 2023. Donc, tu vois, c'est vraiment très récent.
Donc c'est très récent.
Et oui, ça m'a énormément affectée personnellement, énormément. Du coup, ça a affecté ma famille. J'en ai parlé à mes enfants. Ils sont grands, tu vois, ils ont 9 ans, 13 ans, donc ils peuvent quand même comprendre. Pour leur expliquer que c'était pas de leur faute, mais tu vois, maman, ça allait pas trop en ce moment, son travail. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas forcément toujours de très bonne humeur. Mon mari m'a énormément soutenue. Et donc moi, je l'ai pris vraiment très, très personnellement. comme un échec personnel, mais parce qu'en plus je pense que ça l'est vraiment, même si on dit non, c'est pas, mais si, puisque de toute façon c'était moi l'incarnante et c'était
une décision que vous aviez pris ensemble avec ton associé, ça venait de toi, j'ai compris, parce que c'était ton besoin de te détacher.
Oui, mais le licenciement économique a été pris en décision à deux, et ensuite notre séparation aussi, tu vois. Donc c'était quand même pas facile du tout. Enfin, tu as la séparation avec un associé, c'est horrible. Je vous souhaite vraiment de ne pas vivre ça.
Bah, c'est comme un divorce, je pense, quoi.
Ouais. Alors bon, il y a quand même pas les enfants, mais oui, c'est ça. C'est un peu comme un divorce avec avocat, avec tout ce que tu veux. Tout le monde te dit ah mais t'avais pas signé comment on dit là,
un pacte
d'associé. Bah si, mais bon, t'inquiète que ça s'est quand même très mal passé. Et voilà, donc je pense que c'est la normale. Enfin, c'est normal que ça se passe pas très bien. Donc oui, moi je l'ai vraiment très mal vécu. J'ai pas encore digéré. Je pense que ça va prendre encore un petit peu son temps. Donc pour moi, ça a été vraiment la tempête. Je dormais pas. J'ai eu plein d'insomnies. Enfin, c'était aussi difficile. Alors pour moi, c'était plus financièrement que vraiment c'était très compliqué. Donc voilà, du jour au lendemain, on ramène plus d'argent à la maison. Donc mon mari et moi, on gagne notre vie normalement. Donc ouais, on a des crédits sur le dos, enfin tu vois,
la vie, quoi,
voilà, les enfants, les crédits, donc il faut continuer à les rembourser, sinon il faut vendre la maison. Donc c'est aussi tous ces sujets-là en fait venus bouleverser mes jours, mes nuits. Donc ouais, pour moi c'était, et puis voilà, de séparer tout le monde, hyper dur. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'arrête tout? Pas. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer? Est-ce que j'en ai pas vraiment trop marre? Enfin, plein de
questions qui arrivent par vague en plus.
Ouais, c'est ça, qui arrivent par vague, tu vois, en plus je pratique beaucoup la méditation, mais bon, tu rumines malgré tout, enfin tu vois ça. Je ne pouvais pas du tout méditer, j'arrivais pas, sauf quand je nageais, alors je nageais. Mais ouais, enfin moi je l'ai pas du tout vécu sereinement et encore maintenant, enfin tu vois, c'est encore une blessure vraiment qui est pas du tout refermée.
T'as envisagé à un moment de chercher un boulot?
Non. Ça, non, moi, je sais que je peux pas travailler. Je peux pas travailler pour des gens. J'ai essayé d'être salariée au tout début, après mes études, mais ça correspond pas du tout à ma personnalité. Donc, non, au pire, de toute façon, après, voilà, je me suis toujours dit, et je me le dis encore maintenant, au pire, je suis coach sportif indépendant, je fais des coachings et je gagne ma vie très bien et j'aime bien en plus, tu vois, j'aime bien faire du coaching, il n'y a pas de souci, voilà. Donc voilà, au pire c'était ça, mais bon.
Mais parce que en plus, ce qu'il y a de positif, c'est que c'est ton domaine d'expertise. Tu vois, tu as beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui et ce qui fait peur, et en tout cas moi dans les personnes avec lesquelles j'échange, qui ont pas mal de questions, etc., sur l'après, c'est en fait, donc t'as le fameux syndrome de l'imposteur qui vient toujours te hanter parce que t'es entrepreneur, t'es couteau suisse, tu sais tout faire mais tu sais rien faire. Tu fais du marketing, tu gères ton e-shop, tu fais ta com, ton machin, mais en fait est-ce que vraiment t'as une expertise particulière? Et ça, pour le coup, toi tu l'as, t'es légitime, tu vois. Donc effectivement, si demain tu dois basculer sur ce modèle, je pense que c'est pas quelque chose... Alors, est-ce que ça va te plaire? Ça, c'est autre chose. Mais au moins, je pense que t'as ça pour toi. Tu vois, moi, c'est le retail. J'ai fait toute ma vie du retail. Quand je me suis demandé ce que j'allais faire, tu vois, mon mari a commencé à me dire « Oui, il faut que tu fasses de la DA, machin, t'es tellement doué. » J'étais à « Oui, peut-être, mais en fait, bah, je sais faire de la DA, mais en fait, je sais pas faire. » Tu vois, j'ai pas fait d'école pour, il faudrait que je retourne à l'école, machin, j'ai pas envie. Puis moi, ma passion, c'est le retail. Je vais redevenir directrice retail. Et puis, c'est très... Enfin, c'est fine pour moi, quoi, tu vois. Et je pense que déjà, quand t'as ça, franchement, c'est... Bon, je suis toujours en train de voir le positif, hein.
Non, mais c'est bien. Mais c'est vrai que projeter sur, concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour ramener du beurre dans les épinards, c'est quand même important, même si c'est peut-être pas dans une même mesure, mais à un moment donné, il faut être concret.
Bah, bien
et
sûr.
Si tu te dis que tu dois tout fermer, que t'as plus rien, t'as une responsabilité vis-à-vis de ta famille,
Du coup, moi, c'est ça qui m'a un peu sauvée, entre guillemets, c'est le besoin d'argent.
Ouais.
Non, mais c'est horrible à dire. parce que j'aime beaucoup le mindfulness, tu vois, vivre avec son cœur et tout.
Ça t'a ramené un truc concret, quoi.
En fait, ce qui m'a vraiment permis finalement de garder un cap et de pas avoir trop d'idées noires, et de m'en sortir pas trop, enfin voilà, assez vite finalement.
C'est cet acquis.
C'est ce besoin d'argent, quoi, clairement, pour garder notre maison, notre voiture. Et du coup, je me suis un moment dit, bon bah putain, il me faut une idée, quoi. Il faut qu'en septembre j'ai quelque chose, tu vois, parce que sinon, on va pas pouvoir. Donc voilà, c'était en septembre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je redeviens coach sportif? Et y a pas de souci, c'est très bien. Mais voilà, avec l'emploi du temps, c'est compliqué parce que quand t'es coach sportif, c'est génial, mais tu bosses très tôt le matin, très tard le soir, le samedi, le dimanche, le mercredi.
C'est pas évident.
Voilà, donc avec la vie des enfants, où finalement nous, on a construit une vie où on est très présent avec les enfants, on les emmène aux activités le soir et tout. Bon, c'était pas simple. J'ai quand même cette chaîne YouTube qui est super et voilà une communauté qui est hyper proche et qui me soutient, donc j'avais pas non plus envie de juste être coach pour peut-être 100 personnes à côté de chez moi et tu vois entre guillemets abandonner tous ces gens
c'est clair.
Qui m'ont fait vivre, tu vois, et avec qui je vis au quotidien. Donc voilà, j'ai eu besoin de trouver des idées mais clairement je le dis, hein, c'est vraiment le besoin d'argent qui m'a fait un peu sortir à la tête de l'eau et me dire bon, faut quand même que je trouve un truc, quoi.
Bah, c'est cette responsabilité dont on parlait tout à l'heure.
Oui, voilà, ouais. C'est aussi ça, oui.
Et le c'est fait vrai. De te remettre un peu dans une phase plus créative, parce qu'en fait, le problème, moi, je trouve aussi souvent quand on échoue, moi, je l'ai vécu sur des échecs, alors pas entrepreneuriaux pour l'instant, je touche du bois, enfin, j'en ai vécu des petits, tu vois, mais pas, j'ai pas fermé ma boîte encore. J'espère que
tu touches
du bois. Touche du bois. Pour l'instant, c'est pas parti pour nous. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est on a tous vécu des échecs. Et moi, j'ai déjà vécu des échecs, par exemple, où j'ai travaillé, on a déjà parlé plein de fois, mon concours. Je sais que ça paraît bête, mais ça faisait quand même quasiment 6 ans de ma vie que je préparais, en gros, ce grand moment qui était un concours. Et quand j'ai échoué lamentablement et que j'ai eu 2/20 et qu'en gros, ils m'ont dit, mais jamais de la vie, vous allez rentrer dans cette école, vous êtes absolument pas faite pour ça. C'était le concours pour l'ENA. Alors ça paraît débile de le dire comme ça, mais sur le coup ça a été une remise en question de mon identité et de 6 ans de ma vie, et je me suis dit mais en fait qu'est-ce que je vais faire? C'était retour à la case départ. Je me suis dit mais ça fait 6 ans que je bosse pour quelque chose et c'est absolument pas ce que je vais faire, mais qu'est-ce que je vais faire? Enfin c'était vraiment Alors il n'y avait pas la problématique financière parce qu'en tout cas j'avais pas de sous puisque j'étais déjà étudiante à l'époque, mais ce que je veux dire c'est que il y avait quand même cet enjeu-là et moi je me rappelle que ce qui m'a vraiment remis le pied à l'étrier c'est quand j'ai commencé à me projeter dans l'après et à commencer à essayer de chercher, enfin même pas que je cherchais les trucs à faire, mais c'est j'ai commencé à réactiver mon mindset un peu plus créatif de je crée des choses, alors qu'avant j'étais plus dans la complainte et dans l'analyse de pourquoi ça avait échoué, qu'est-ce que j'avais mal fait, ouais. Et est-ce qu'il faut que je le refasse différemment, est-ce qu'il faut que je réessaye encore, tu vois. Et ça, c'était très délétère dans mon état d'esprit, parce que j'étais très centrée sur moi, finalement. Et quand j'ai commencé à m'intéresser plus à, ok, bah, concrètement, il y a cette idée qui m'intéresse et j'ai envie de la lancer, et du coup, à travailler là-dessus, j'ai un peu moins pensé à mes problèmes, même s'il faut mettre du beurre dans les épinards, donc voilà. Mais je trouve que c'était un changement de mindset, en tout cas, dans mon cas, qui a été très bénéfique, tu vois, pour m'en sortir. Je sais pas si toi, ça t'a fait un peu ça.
Si, ça m'a fait du bien. En gros, je me suis un peu donné... Financièrement, j'avais 2 mois.
Oui, t'avais pas beaucoup de temps pour réfléchir.
Pour réfléchir, voilà, clairement. Et il fallait qu'en septembre, je sorte quelque chose, quoi. Et du coup, tout le mois de juillet-août, j'ai un peu gambergé. Qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, oui, ça m'a vraiment fait du bien, en fait, de me dire de quoi j'ai vraiment envie pour faire plaisir à ma communauté, mais pour me faire plaisir à moi aussi, enfin, tu vois, un vrai projet qui me fait vraiment kiffer.
Qui est un peu de table rase.
Que j'ai jamais osé faire aussi, tu vois, parce que finalement, ce que je propose maintenant, c'est un peu ce que je voulais faire, tu vois, sur le long terme comme ça, mais c'était pas vraiment vendeur, c'était pas simple à fabriquer. Donc, je me suis dit, j'essaye, je tente, tu vois, je propose et puis on verra, quoi. Puis
mine de rien, avec moins de contraintes, parce que quand tu le faisais avec Welso à l'époque, qui était donc là, le nom de la marque que t'avais créé, donc où tu t'étais détaché de ton identité, mine de rien, t'avais toute l'équipe encore. Donc ça veut dire qu'il faut créer un système qui fonctionne avec une grosse équipe.
Ouais.
Alors que là, tu peux le faire de manière beaucoup plus agile parce qu'en fait, oui. C'est toi. Bon.
C'est ça. Alors après, du coup, c'est un peu à l'arrache. Oui, voilà.
Oui, oui.
Mais oui, voilà. Du coup, c'est plus réactif, créatif. Tu peux changer tes idées, faire plus, faire moins, comme ci, comme ça. Après, moi, je sais que c'est comme ça que j'aime bien travailler, en fait. Finalement, le côté un peu grosse machine, prévoir très en avance, tout, ça me correspond pas trop, en réalité. Et finalement, d'un seul coup, je me suis sentie vachement plus libre de créer, de faire, de changer, de proposer aussi, de tester. Et en fait, c'est vraiment comme ça que j'aime bien travailler.
Mais ça se sent d'ailleurs, je trouve, que t'es plus comme ça, en fait. C'est plus ton état d'esprit plutôt que le côté un peu pas procédurier, c'est pas le truc, mais tu vois, machine, comme tu dis.
Oui, c'est ça. En fait, on s'était un peu transformé en machine à faire des programmes de remise en forme, ce qui est très bien.
Bah, ça marche.
Enfin, voilà, ça marche. On a fait faire du sport à des milliers de gens, donc c'est super. Mais en fait, c'était un peu ronronnant. Et en fait, plus on était nombreux, plus il fallait organiser en avance, tu vois, les tournages, comment t'allais être habillée, quelle couleur, enfin, tu vois, tous ces trucs-là qui finalement, c'est très bien parce que c'est plus beau, ça fait plus pro, mais en fait, c'est un détail. Au final, l'important, c'est vraiment les mouvements de sport que tu proposes, la cohérence, tu vois. Et ça, c'était devenu un détail. Et finalement, le plus important, c'était l'orga, tu vois, avec qui on avait travaillé, le process, ça c'était devenu le plus important. Et au final, les mouvements de sport, ou vraiment, enfin, la cohérence de...
Le fond, quoi.
Le fond, voilà, c'est ça. C'était plus vraiment... C'était un détail. Et en fait, c'est ça qui me pesait énormément. Et du coup, je suis revenue complètement là-dessus.
Maintenant, tu fais du fond.
Voilà, maintenant, moi, je fais que du fond. Finalement, il y a...
Qualitatif, vraiment...
Et c'est dingue, parce qu'en fait, là, depuis donc presque 9 mois, je propose un programme qui dure 9 mois, 10 mois. Et mes vidéos sont complètement à l'arrache. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos. Non, mais attends.
Tu les fais avec ton téléphone et tout.
Que je fais avec mon iPad dans mon garage. Parce que j'ai une petite salle de sport dans mon garage. C'est les vidéos qui sont préférées.
Ouais, peut-être pas.
Tu vois. En fait, j'ai acheté un petit micro sur Amazon à 70 balles. Pour bien avoir du son. Parce que c'est le son surtout qui est un peu difficile à avoir avec l'iPad. Je pose mon iPad sur une chaise. Je fais ma séance de muscu dans mon garage. Et c'est ce que les gens préfèrent en réalité. Donc c'est fou, quoi.
Mais est-ce que là, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as des choses qui résonnaient faux, en fait. Est-ce que à quel moment tu t'es rendu compte de ça? À quel moment tu t'es dit en fait, là, ce qu'on est en train de proposer, soit ça me plaît pas, soit ça sonne faux, soit il y a, tu fais tirer de flag en mode.
Mais c'est pas vraiment que ça sonne faux, je pense. C'est juste que c'est lourd, non?
C'est pas que ça sonnait faux. C'est juste que...
Tu t'es pas dit, j'ai pas envie de proposer ça, du coup?
Si, si, je me le disais.
C'est pour ça que je te dis ça. Enfin, c'est ça, ça sonne faux. Je sais pas si c'est...
En fait, c'est, tu vois, quand à un moment, on a commencé... Je dénigre pas du tout les produits qu'on a fait parce que oui, ça reste
super.
Du sport.
Enfin, moi, j'en ai fait, ils étaient
voilà,
top.
Voilà,
hein.
Enfin, tu vois, c'est bien. Et ça, toutes les vidéos que j'ai faites, elles sont toujours très bien. Et aussi les coachs avec qui j'ai travaillé. Mais tu vois, je me rappelle très bien d'un jour. C'était genre, je sais plus, genre en juillet, quoi. Et avec donc mon associé et une membre de mon équipe, on se pose et on se dit bon bah on a tout ce chiffre d'affaires à faire entre septembre et décembre pour nourrir le loyer, l'équipe, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire?
Oui, c'est
pour l'argent, tu vois. Et en fait, de réfléchir comme ça, c'est...
Oui, t'as senti que ça allait peut-être à l'encontre de tes...
Ouais, en fait, c'est pas que ça allait à l'encontre de mes principes. Je veux dire, enfin, voilà, c'est normal. Donc, quand
oui,
t'es en entreprise,
un business,
tu veux vendre et tu veux que ça marche et t'as des salariés à payer et des loyers, et voilà. Mais c'était juste vraiment, enfin, de penser dans ce sens-là plutôt que, tu vois, de quoi est-ce que les gens ont vraiment besoin et comment est-ce qu'on peut le faire et que ça marche. En fait, on réfléchissait plus comme ça. Parce que on avait voilà
trop d'objectifs, trop de contraintes, trop de
ouais. Donc et je pense qu'en fait nous on a vraiment très très bien marché pendant le Covid. Ça a été tu vois l'explosion, on a quadruplé notre chiffre d'affaires. Enfin ça a été la folie quoi. Donc bah tant mieux, c'est cool, les gens ont fait du sport pendant le Covid. Mais du coup on s'est un peu emballé en embauchant beaucoup, en croyant que c'était vraiment à la fête. On est en pleine croissance, on y va, on galope. Et aussi, on nous a énormément conseillé dans ce sens.
Parlons-en.
Parlons du conseil. Mais oui, mais parce qu'en fait, tous les gens autour de toi te disent, vas-y, super, bah super, oui, croissance, ouais, plus 10%, plus 20%, continue, c'est top, tu vas jamais t'arrêter, t'es dingue, c'est trop bien. C'est mis en valeur à mort. Et en fait, finalement, les gens n'ont plus rien à foutre. Enfin, dans ton conseil, pas tes clients, mais dans ton entourage de conseil, les gens n'en ont un peu plus rien à faire des produits que tu fais.
Ah bah, ils les consomment pas, en tout cas.
Ils regardent ton chiffre d'affaires et, enfin, tu vois, ton nombre de likes, enfin, tu vois. Et donc, on te conseille, moi, vraiment, on ne m'a conseillé que dans la croissance, plus de loyers, plus de bureaux, plus de staff, plus de marketing, plus de pub. Et en fait, on n'a pas eu le recul parce qu'aussi, voilà, on était des jeunes entrepreneurs, enfin jeunes, pas forcément en âge, bah, mais
après,
en expérience.
Après, c'est dur, hein, quand t'as des gens que t'admires ou que tu respectes au moins, tu vois, et qui te disent des choses comme ça et qui ont réussi, c'est sûr que c'est difficile de dire « Non, en fait, c'est pas ce qu'il faut, quoi. »
Moi, j'ai eu exactement la même problématique que toi.
Donc, nous, on a trop embauché, clairement, avec tous ces conseils. Ouais.
Bon, et puis avec l'effet pervers du Covid, où franchement, c'était pas évident de se rendre compte qu'il y avait un peu quand même une bulle, c'est normal, de tout ce qui était digital, et que les gens ensuite sont revenus à une réalité précédente qui était que malheureusement, ils font passer de port certainement. Mais du coup, oui, vous étiez peut-être un peu sous perfusion à ce moment-là, et donc c'est légitime aussi d'embaucher, parce qu'à ce moment-là, vous étiez en train de le gérer. Mais jusqu'après, enfin, pour te rassurer, c'est pas comme si vous étiez les seuls à avoir fait cette erreur. Hein. Je pense qu'il y a très très peu de boîtes qui n'ont pas fait cette erreur. Au contraire, enfin, la preuve avec Barbara, toutes les boîtes tech qui ont fermé derrière ou qui ont dû, ça a été un grand sujet du Covid quand même, ça.
Ouais, bien sûr. Moi, comme, enfin, au même titre que toi, le Covid nous a quand même pas mal porté parce que, enfermé entre quatre murs chez toi, finalement, tu te dis que tu mettrais bien des éléments de déco. Donc, il y avait eu un boom sur le secteur de la déco à ce moment-là. Nous, on était catégorisés comme fleuristes, donc on a le droit d'être ouvert et de faire des événements, même quand il y a les confinements.
Ah, intéressant.
C'était pas mal. Donc,
c'était la profession indispensable, là. Comment ça s'appelait?
Comment ça s'appelait? Les produits de première nécessité, je sais pas.
Ouais, les fleurs produits de première nécessité. En tout cas, bon, pas pendant la première vague où on était vraiment confinés 3 mois, mais tu vois, on avait les restrictions sanitaires et moi, j'avais le droit quand même de faire des événements, etc. Et en fait, en pivotant et en faisant les événements et en m'éloignant un peu de mon produit historique qui était à la base la plante dans le pot vintage, etc., mais qui n'était absolument pas scalable parce que tu peux pas en faire 10 000, tout est unique. Par contre, quand on s'est mis à proposer des bouquets de fleurs séchées, etc., et qui là pour le coup tu peux en faire à la chaîne, et ben finalement tu te dis c'est génial, ça va être moteur, etc., la croissance elle est issue de ce produit. Et finalement moi aussi j'avais des petits trucs, tu vois, qui je me disais en fait est-ce que c'est ça vraiment que j'ai envie de faire, en tout cas est-ce que j'ai envie vraiment de proposer ça. Donc au début c'est cool parce que t'es un peu la seule marque à le proposer à Paris, donc c'est assez novateur, mais finalement avec les mois, quand tu as Truffaut qui commence à distribuer des fleurs séchées ou chez Emma, etc., là, tu te dis quelle est ma valeur ajoutée. Puis pour que les gens viennent dans tes événements et qu'ils te disent ah oui, mais le blé il est à 2 euros chez Emma et pas à 3 euros. Ouais, moi je suis pas Emma en fait. Et tu vois, tout ça, il y a un moment où je me suis dit si mon produit devient mass market, déjà c'est plus trop ma cible. Enfin, ça, c'est un peu l'ego, mais ça me fait chier.
Bah, c'est pas pour ça que tu l'as fait, quoi. En tout cas, ça te ressemble pas.
Exactement. Ça me ressemble pas. J'ai pas forcément envie de ça. Après, ça vient soulever aussi d'autres problèmes un peu durables, écologiques, pour lesquels moi, j'avais fait du recyclage sur mes objets parce que j'avais envie de porter un message sur l'upcycling. Et du coup, en fait, tu t'aperçois que des bouquets de fleurs séchées, même si moi je le fournissais pas du tout en Chine ou quoi que ce soit, quand même des marques qui peuvent le faire aujourd'hui, mais quand même tu commences à, quand tu grattes un peu les provenances, les trucs, les machins, les colorants, t'essayes de sourcer correctement, mais ça devient très cher. Et puis, plus ça va et tu regardes aussi ton produit historique qui s'éloigne et le message que tu avais envie de porter. Et qu'au final, tu te dis, bah, est-ce que c'est vraiment ça que j'avais envie de faire? Je suis pas sûre. Et je pense, pour revenir à la première réflexion qu'on a eue sur la fermeture, que ça, ça m'a aussi aidée dans mon process de fermeture. À être un peu, comme j'étais un peu plus détachée de mon... En tout cas, entre ma marque et moi, j'étais un petit peu plus détachée du produit qui s'était installé naturellement, qui était la fleur séchée, et qui n'était pas mon produit historique. Bah, je pense que ça m'a aidée, tu vois, à processer cette fermeture. Je me suis dit, bon, en fait, est-ce que c'est vraiment ça que j'avais envie de faire, de finir? Est-ce que j'avais envie d'être vendeur de fleurs séchées? J'avais hyper grossi le trait pour m'aider, tu vois. Et la réponse, en fait, elle était non. Bah non, je suis pas vendeur de fleurs séchées, en fait. Donc,
Il sait très bien d'en vendre si on veut, mais toi, c'était pas
sûr, évidemment. Non, il sait très très bien d'en vendre si on a envie que ce soit le produit historique, mais en tout cas, moi, c'était pas ça. Ouais. Et je pense que quand t'arrives à te poser les bonnes questions aussi, bah après, je pense que pour passer à l'étape suivante, l'aventure suivante, comme toi, par exemple, bah, je trouve que c'est plus... Ça rassure. C'est-à-dire, je suis au bon endroit. Et toi, je sais pas ce que tu te dis aujourd'hui, mais est-ce que
t'es... Lucie, toi, tu penses que là, t'es dans une période un peu encore de transition ou tu... Est-ce que t'as la capacité d'y réfléchir aujourd'hui ou finalement, non, en fait, t'aimes bien être dans plus le quotidien? Parce que ça marche finalement ce que tu fais, donc ça, c'est cool.
Ouais. Moi, ouais, ce que j'ai proposé, du coup, fonctionne. Donc, en gros, c'est du coaching sur 9 mois, 10 mois. Tu payes en septembre et ça dure 9-10 mois et t'es emmené, quoi. Voilà. Et c'est seulement là, tu en es même pas 1000. 1000 personnes.
Donc super
donc je réponds aux questions en permanence à toutes les personnes qui sont membres du club.
Donc c'est marrant, c'est un peu un retour à ton coaching mais quand même à plus grande échelle.
Oui, ouais. Voilà, c'est ça, finalement c'est un petit club, tu vois, et les filles se parlent entre elles, moi je les coach, il y en a qui se rencontrent, on essaie de faire des rencontres aussi, mais c'est voilà. Cool. Ouais, c'est vraiment cool, j'aime beaucoup. Donc je pense que je suis toujours en période de transition. Même si je pense que j'ai envie de continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire moins de clients, clairement, je le dis, hein, moins de clients, mais moi plus présente, plus qualitative. C'est vraiment comme ça que j'ai envie de continuer.
Et puis plus de fond et moins de forme.
Voilà,
si
plus de fond, beaucoup plus de fond, moins de forme, vidéo parfaite, canon, machin. Tu vois, enfin, c'est canon, hein. On partait en Guadeloupe pour faire le super programme de l'été et tout, avec les plus beaux maillots de bain de la terre. C'était hyper bien, hyper beau, mais finalement c'est beaucoup d'investissements qu'on mettait sur la forme et pas, tu vois, sur le fond, vraiment en se posant et en prenant vraiment le temps de se dire voilà, il faut faire ces mouvements-là pour ci, pour ci, pour ça. Donc voilà. Et en tout cas, moi, ce dont je suis sûre maintenant, et j'en ai enfin parlé à quelqu'un qui me conseille et qui me comprend, c'est que je suis et je veux rester dans un lifestyle business. C'est-à-dire que j'ai une entreprise qui va rester petite et qui reste à mon échelle, à moi. Donc voilà, pour l'instant, j'ai un staff et deux prestataires avec qui je travaille beaucoup. Mais je veux que ce soit une entreprise qui me permet d'avoir ma vie comme j'ai envie de la mener, c'est-à-dire faire beaucoup de sport, avoir mes enfants et être présente pour eux. Et pas chercher la croissance en permanence, plus d'argent, plus de clients. Je veux vraiment garder cette idée de lifestyle business qui pour moi est nouvelle. C'est une de mes amies qui m'a parlé de ce concept. Je pense qu'on n'en parle pas du tout assez. C'est beaucoup les auto-entrepreneurs finalement qui le font, tu vois, qui l'incarnent. Mais on peut aussi avoir une SAS, une SARL, qui est un peu plus grosse que ça, voilà, qui fait pas mal de chiffre d'affaires, mais qui reste un business où, voilà, tu te mets des limites, t'es bien dans ton chiffre d'affaires, t'es pas forcément à le faire grandir à chaque fois, et tu peux en être hyper heureux et bien vivre avec, ouais, et fier aussi, et on n'est pas obligé.
C'est plus de la qualité que de la quantité, quoi.
C'est ça, exactement. C'est le fond, la qualité de vie pour les personnes qui travaillent, la qualité du produit que tu proposes, et pas forcément à vouloir scaler gagner plus, être en hyper croissance, être la nouvelle start-up qui déchire tout. Parce qu'en fait, en discutant, les nouvelles start-up qui déchirent tout, scaler, faire des levées de fonds, ça crée beaucoup de souffrance, en vrai. Beaucoup de gens galèrent, dorment pas la nuit, ont pas le temps pour faire du sport, ont pas le temps de voir leurs enfants, passent leur temps au travail, sont méga stressés de ouf. Et tu vois, moi, ça commence à devenir mon cas. Donc, qui je suis, moi, ultra stress, méga insomnie, dire aux gens, dormez, faites du sport, passez du temps en pleine nature. Enfin, tu vois,
c'est ce que je dis, fais pas ce que je fais.
Exactement.
Bah, c'est ce que j'allais dire. Dans ton cas, c'est parti. En fait, toi, du coup, là, t'es beaucoup plus alignée, en fait, avec ce que tu proposes. Parce que c'est pas que t'étais devenue alignée par intention, mais c'est juste que subrepticement, en fait, vous étiez allé tellement loin dans la volonté de scaler et d'avoir de la croissance, que c'était devenu un peu même contradictoire avec tout ce que tu prônes,
avec tes valeurs, en réalité, quoi. Bien sûr.
Ouais, après, j'arrivais quand même à faire mon sport, mais je me sentais coupable de faire du sport parce que j'étais pas au bureau. Enfin, tu vois, c'était complètement, ça devenait
hyper intéressant.
Donc je trouve ça. Je pense que cette idée vraiment de lifestyle business, elle est pas assez mise en valeur. Tu vois, c'est une petite boîte, un petit artisan, des trucs comme ça. C'est toujours vu un peu comme quelque chose de un peu péjoratif ou voilà, enfin c'est un petit truc, mais en fait les petits trucs ça crée aussi des belles vies, et au final voilà, on est sur cette terre pour vivre, tu vois, on n'est pas non plus là que pour taffer comme des malades, pourquoi au final,
complètement d'accord. Non, et d'ailleurs, et je te remercie parce que tu vois, pour être honnête, sur ce podcast, comme tu sais, je mets en avant, et tu le sais parce que t'es venu plusieurs fois, je mets en avant des success stories. Mais j'aime bien l'idée de montrer qu'il y a plein de succès différents et qu'en fait, il n'y a pas une forme de succès, même si aujourd'hui, on est un peu formaté, notamment à cause des médias et peut-être des podcasts comme le mien. Mais j'essaye justement, moi, de pas trop mettre en avant des start-upers, des choses comme ça, parce qu'en fait, je trouve ça assez nauséabond, pour être honnête, de montrer seulement une manière d'avoir du succès, alors qu'en fait, il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie, et que finalement, toi, tu fais le choix de réussir ta vie. Et au passage, tu réussis aussi dans la vie, en réalité, mais c'est pas dans la manière, on va dire, que tout le monde a identifié, finalement, tu acceptes de sortir un peu de la case, quoi. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, on le voit pas plus, parce que finalement, des lifestyle business, c'était ce que nos parents ou nos grands-parents vivaient peut-être plus, parfois, quand ils étaient entrepreneurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient pas en train de se comparer, quoi, en permanence, au final. Ils étaient en train de vivre leur vie, de gagner de l'argent, parce que, en fait, l'argent servait à ça. Elle servait à bien vivre sa vie, plus qu'à autre chose.
Je sais pas, enfin moi j'ai un mauvais exemple parce que mon père était entrepreneur et lui a beaucoup fait de croissance et créé plusieurs boîtes à succès, donc d'ailleurs c'était un de mes conseils hein, mais il nous a très bien conseillé, mais c'était toujours dans la direction de plus, toujours plus. Et en fait au final, moi, dans ma personnalité et dans ma vie que j'aime, c'est pas ça qu'il me faut, mais en fait ça a pris du temps pour que je le comprenne, que je le réalise. Et maintenant vraiment, enfin je le sais, je l'ai écrit et je veux plus rentrer dans une idée de grandir, et je veux garder une qualité de vie dans mon entreprise et une qualité de ce que je propose. Donc voilà, et je pense qu'on n'en parle pas assez de tous ces gens-là. Enfin, tu vois, je pense à la personne avec qui je fais les vidéos et les photos. C'est aussi un entrepreneur, en fait. Pareil, finalement, il se limite. On en a parlé pas mal récemment. Et en fait, voilà, il a décidé de se mettre une limite à un chiffre d'affaires pour garder une qualité de vie. Et je trouve que c'est assez intéressant aussi. On parle pas de ça.
Non, mais t'as raison.
Ouais, c'est assez, c'est très vrai. Moi, tu vois, mon mari, il est beaucoup dans ce mindset. Et le fait que son business ne prendra pas le pas sur sa qualité de vie et de s'imposer des plages de repos ou de bien-être avec son cours de tennis, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup, parce que moi, j'ai jamais réussi à le faire dans ma boîte. Parce que même j'ai essayé, je ne pense pas, tu vois. Comme le dit tout le temps, on a l'emploi du temps qu'on se donne.
Je suis d'accord qu'il y a une espèce de... pas connotation négative, c'est pas ça, mais je dirais il y a aujourd'hui une pression sociale, enfin honnêtement, sur la réussite.
Mais c'est la culture de la réussite.
Et notamment quand on est entrepreneur, en fait, si t'es un entrepreneur qui ne fait pas de la croissance, recrute pas et tout, t'es un peu un loser, quoi.
Exactement.
Même.
Complètement.
Et c'est quand même assez nul. Moi, je sais que, tu sais, nous, avec Gémio, on est propriétaire de la boîte avec mon mari. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. On a fait des levées de fonds et on a fini par réussir à acheter notre fonds d'investissement en s'endettant fortement, d'ailleurs. Ce qui a été une autre histoire qu'on racontera dans un autre podcast. Mais tout ça pour dire que maintenant qu'on est propriétaire et que, du coup, on fait les choses à notre échelle, à notre manière, on fait moins de croissance. Mais du coup, on le fait à notre rythme. Alors, ça n'empêche pas que j'ai mes problèmes d'emploi du temps quand même.
Ouais,
mais
bien sûr.
On le fait quand même à notre rythme. Et ça, c'est drôle parce que je vois bien que beaucoup de gens ne le comprennent pas. Ils le comprennent pas parce qu'ils se disent « Mais pourquoi vous levez pas des fonds? Vous pourriez accélérer 10 fois plus, etc. » Mais c'est pas ce qu'on veut, en fait. Nous, on veut créer une boîte, probablement à l'échelle de notre vie.
Saine aussi.
Saine, sans doute. Enfin, en tout cas, du mieux qu'on peut. Et puis, dans laquelle on va pas s'user jusqu'à la corde. Parce que si c'est très long, tu peux pas non plus tenir. Parce que c'est ça aussi la vérité des startups. C'est que tu peux tirer sur la corde pendant 4, 5, 10 ans. Mais est-ce que tu peux tirer sur la corde pendant 40 ans? Je suis pas sûre.
Mmh. Oui, et puis en fait, tu parles pas de tout ce qu'il y a derrière. Le stress, les problèmes de santé qui vont avec,
les insomnies,
les enfants qui se font gueuler dessus en permanence parce qu'en fait, les parents, ils sont méga stress. Enfin, tu vois, en fait, tout ça... C'est aussi, moi je m'en rends compte, parce que finalement c'est les gens que j'ai en coaché, en fait c'est mes membres de club, ce sont ces personnes-là. Voilà, j'ai des médecins qui bossent beaucoup trop, j'ai des entrepreneurs et tout ça qui sont ultra stress et qui galèrent à même trouver 20 minutes pour faire du sport chaque jour. Et voilà, donc c'est vrai qu'on met vachement en avant le succès, la croissance, c'est top, mais quand tu grattes derrière... Et forcément, pas toujours, hein. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui font de la croissance et qui ont un lifestyle parfait, mais c'est quand même assez rare. Et en fait, voilà, la vie, c'est toujours un équilibre. Et parfois, bah, quand tu mets toute ton énergie dans le travail, bah, il y en a plus pour ta famille, le sport, ou tes amis, ou voilà, enfin, tes passions qui te maintiennent aussi hors un peu ton boulot, quoi.
Mais je pense que c'est culturel, c'est très français, on s'autorise pas, tu vois.
On vit aux États-Unis, ils sont pas mal aussi. Hein,
oui, mais il y a un mindset wellness qui est quand même installé, tu vois.
Moi, je pense que c'est vraiment entrepreneur égale croissance, bosser de ouf, gagner plus, monter un gros truc, lever des fonds, embaucher, faire grossir la boîte. En fait, c'est un peu l'unique vision. Tu vois qu'on a, et d'ailleurs, tu vois, c'est un peu, parce que moi, j'ai commencé comme auto-entrepreneur, et de toute façon, au début, moi, quand j'ai commencé, c'était 28 000 euros de chiffre d'affaires. Il fallait ensuite,
plafond.
Exactement. Enfin, tu vois, t'étais toujours happé. En fait, on te pousse un peu à mettre le doigt dans l'engrenage. C'est-à-dire, tu taffes plus. Et du coup, il faut embaucher. Et là, du jour au lendemain, on t'embauche la première personne, tu rentres dans la roue du hamster. En fait, il faut que tu cours toujours plus vite parce que ça coûte cher d'employer. Donc, il faut faire plus de chiffre d'affaires. Et du coup, il faut embaucher quelqu'un d'autre.
La spirale.
Ouais.
Mais il y a une boîte, d'ailleurs, aux États-Unis qui est assez sympa. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est la boîte de ceux qui ont écrit Rework. Et ce livre, il est génial justement parce qu'il va énormément contre. Il faudrait que tu le lises si tu aimes le sujet du business lifestyle. C'est un livre hyper court à lire où il donne plein de principes qui sont un peu les anti-principes, en fait, de la... pas de la croissance, mais en gros de la société actuelle entrepreneuriale. Pourtant, il a été écrit il y a des années. Et typiquement, c'est une boîte, je crois, où ils ont jamais levé de fonds. Ils cherchent pas à faire particulièrement de la croissance parce qu'en fait, ils sont rentables et ça vit bien comme ça. Ils cherchent pas à faire beaucoup plus de clients, mais ils apportent le meilleur service possible à leurs clients, à leur échelle, et ils cherchent pas à révolutionner le monde, tu vois. Et je trouve ça assez rafraîchissant, au final.
Moi, c'est ce que je veux faire maintenant, tu vois. Je veux être là-dedans. Je veux pas révolutionner le monde du coaching en ligne ou quoi. Enfin, tout existe déjà, de toute façon.
Et c'est clair.
La seule chose qui existe pas vraiment, c'est de la grosse qualité.
Ouais, des conseils très
personnels.
Voilà,
avec vraiment des vidéos qui sont hyper bien expliquées, avec des vraies progressions, de la progressivité. Ça, y en a jamais assez. Donc, voilà, moi, j'ai envie de faire ça. Et de vraiment m'investir pour les gens dans leur réussite sportive et alimentaire. Et le reste, c'est pas grave. Voilà, on restera à un certain chiffre d'affaires qui fait que tout fonctionne. Au pire, embaucher une ou deux personnes max, pas plus, beaucoup travailler avec des prestataires de services qui sont excellents et qui, voilà, si un jour t'as plus besoin d'eux, bah c'est pas grave, ils seront ok avec ça. Et du coup, ça libère vraiment. Moi, je me suis libérée vraiment en m'autorisant ça et en le disant. Donc vraiment le dire autour de moi, tout le monde disait, alors maintenant tu vas faire quoi, bah en fait je vais rien faire, voilà, je vais pas recréer un truc nouveau. Et tout le monde me dit là, oui mais c'est encore trop tôt, tu sais pas, tu vas certainement reconstruire un truc et tout. Peut-être pas, et ouais, c'est pas médiocre en fait, non. C'est juste qu'au contraire ce que je fais c'est hyper bien.
Mais moi, je suis sûre que les milliers de personnes qui suivent tes formations, ils sont hyper contents.
Oui, je pense que c'est vraiment bien. Enfin, voilà, j'ai que des bons retours. Bon, voilà, il y a toujours des gens qui sont pas contents, mais l'immense majorité est vraiment contente, me le dit très honnêtement. Donc, voilà, j'ai envie de faire ça bien et c'est tout.
C'est un retour, en fait, des gens sur le besoin d'être... d'être associé ou de se tourner vers des plus petits business, des plus petites communautés. Ça, c'est une vraie tendance émergente, notamment, tu le vois, sur la micro-influence. Et je pense que c'est vraiment signe de qualité parce que tu fais moins, mais mieux avec ton expertise. Et que ça, en tout cas, le client, il le ressent vraiment. Et je pense qu'on va tendre de plus en plus vers ça. Vraiment.
Au final, c'est de l'artisanat.
Enfin, oui, voilà,
c'est ni plus ni moins.
Retour à l'artisanat.
C'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat en ligne. Donc, voilà, je peux avoir des clientes qui sont au Québec, à Marseille, à Paris ou juste à côté de chez moi. Mais ça reste de l'artisanat. C'est-à-dire que tu fais un peu du cas par cas. Tu fais bien les choses dans ton vraiment domaine d'expertise que tu maîtrises. Et sans forcément multiplier par 10, par 20 tous les 10 ans, quoi.
Alors du coup, la dernière question que je suis obligée de vous poser à toutes les deux, c'est est-ce que ces échecs, vous êtes finalement contente de les avoir vécus ou pas?
C'est en premier.
Moi, oui, parce que je suis persuadée que, en fait, ma définition, en tout cas, de l'échec et la façon dont je l'envisage, c'est que c'est cette phrase de Mandela qui te dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et en fait, moi, j'en ressors extrêmement grandi de cette expérience entrepreneuriale. Et toutes ces erreurs que j'ai pu faire, mêlées à tous ces succès et de cette aventure, m'ont fait apprendre. Enfin, de toute façon, l'école de l'entrepreneuriat, c'est la... l'école la plus folle qui soit et la plus dense, et j'ai appris je pense tellement de choses en 6 ans qui me servent aujourd'hui. Moi je suis aujourd'hui salariée, mais c'est pas pour autant que j'ai du tout mis une croix sur l'entrepreneuriat. Je pense que j'ai vraiment ça en moi, et j'ai déjà eu d'autres boîtes auparavant, tu vois, et peut-être que j'y retournerai un jour et que je me servirai en tout cas de tous ces apprentissages. Et même, je m'en sers encore aujourd'hui, même dans ma boîte, tu vois. Donc, non, moi, je regrette pas du tout.
Et toi, Lucille, moins facile.
Ouais, oui. Moi, je pense que déjà, c'est un peu trop récent pour dire ça. Humainement, pour ça, c'est quand même vraiment quelque chose qui restera, je pense. Je trouvais ça vraiment très dur de me séparer des salariés, même de mon associé. Enfin, ça a été vraiment des moments très durs, personnellement, humainement. Donc, je suis pas contente de l'avoir vécu. Et en revanche, je pense que pour moi, pour ce que je propose maintenant, les produits que je propose, je préfère. Donc, voilà, je suis
plus alignée.
Voilà, je suis plus alignée, je préfère proposer. J'aurais bien aimé finalement avoir eu cette idée avant, et peut-être qu'on aurait pu, tu vois, la faire vivre avec...
On se rend compte qu'on a appris des trucs, mais on aurait aimé apprendre de manière un petit peu plus simple, quoi.
Ouais, et d'avoir l'idée avant, peut-être que ça aurait mieux marché, mais peut-être pas, donc je sais pas en fait, tu peux jamais savoir. Donc, bon. En tout cas, enfin, moi j'ai encore un dernier petit mot à dire, mais plus pour les gens qui nous écoutent, c'est que en fait, enfin, vraiment, moi, c'est ma communauté qui m'a sauvée, hein. Là, au mois de septembre, quand j'ai proposé mon produit en leur expliquant que j'étais dans la pire des galères,
tu l'as dit, ça, t'étais méga honnête.
Ouais, j'étais méga honnête, j'ai tout expliqué. Et donc elles m'ont fait confiance, hein, donc près de 1000 personnes qui ont acheté un truc qui n'existait pas. Alors, je leur ai dit voilà, ça n'existe pas. Faites-moi confiance et ça va être super bien.
J'ai vraiment... bon, elles ont bien fait de te faire confiance.
Oui, mais... je pense qu'elles ont bien fait de me faire confiance. Et du c'est coup, dingue. C'est une expérience vraiment humaine aussi avec mes, avec ces clientes.
C'est cool.
Mais vraiment de dire que si, en fait, vos achats vraiment soutiennent les personnes qui fabriquent ce que vous achetez. Il faut vraiment le dire. C'est ouais. pas oh ça sert à rien d'acheter ces pommes, autant prendre ces raisins qui viennent de je sais pas quoi. Non, en fait, chacun de vos achats soutiennent à 1000% les personnes qui fabriquent le produit et en fait on vous êtes vraiment acteur de la société que vous voulez voir. Parce que voilà, enfin là les personnes qui m'ont suivi, elles m'ont permis de souffler, de reprendre confiance en moi, de proposer un produit dans lequel, avec lequel je suis alignée et d'améliorer ce que je fais. Donc, c'était pas rien, en fait. Et ça, c'est à tous les niveaux, quoi. En allant voir en concert un artiste qu'on a envie de soutenir, voilà, enfin, n'importe quel achat que l'on fait.
C'est un engagement,
c'est
quoi.
Un engagement. Ouais. Et c'est pas rien d'aller acheter des fleurs séchées chez Emma ou des fleurs séchées, c'est dur à dire, chez voilà une petite entreprise qui a des valeurs et qui essaye de faire bien les choses. C'est pas la même chose, même si c'est 4 euros ou 2 euros.
Je suis complètement d'accord. Merci Lucille. Merci aussi Barbara.
Bah, merci à toi Pauline.
Et à bientôt. Et j'espère à bientôt. Pour un podcast plus gay.
Bye bye les amis, c'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, quelques détails en plus. D'abord, pour toutes les infos sur le podcast et cet épisode, ça se passe sur polinegno.com, vous aurez tout promis, juré. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, je vous attends. Enfin, encore mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.